Alors voici un sujet crucial, trop souvent relégué au silence, la violence sexuelle vécue par les hommes durant leur enfance. Les données indiquent qu'entre 8 et 20 % des hommes ont subi de telles violences et qu'il s'écoule souvent plusieurs décennies avant qu'ils ne brisent le silence. Pour humaniser ces statistiques et briser les tabous, le livre « Tracer les mots » allie l'art à la science afin d'offrir un espace de reconnaissance et de guérison. Nous recevons Natacha Godbout, qui est directrice du collectif national sur la victimisation masculine et de l'unité de recherche sur le trauma et le couple de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Natacha.
Bonjour Denis Martin.
Alors d'entrée de jeu, par transparence, je vais vous dire que je connais très bien Natacha. J'ai contribué à la rédaction du livre dont il est question, mais je vous promets que je suis capable de rigueur malgré tout cela. Alors on commence Natacha. Qu'est-ce qui a déclenché l'urgence de créer un livre collectif et d'allier la recherche scientifique aux arts visuels, parce qu'il n'y a pas juste de l'écrit, il y a aussi des dessins qui sont super beaux, et aussi les arts littéraires pour aborder les traumas vécus par ces hommes?
C'est notre désir de rassembler des personnes de différents domaines, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu elles-mêmes, des hommes qui ont vécu les expériences d'agression sexuelle en enfance, qui nous ont parlé, qui ont fait des entrevues avec nous, qu'on a eu des verbatims, de rallier les données de la recherche. Moi, je suis une chercheure, une professeure, une formatrice, une psychologue. Mais pour aller chercher le monde, pour aller sensibiliser la population, mes articles scientifiques, voir des gens, c'est sûr que j'aide plusieurs mondes en individuel, mais c'est pas la même chose que d'aller parler au grand public. Et l'art a quelque chose de magique pour aller parler au monde, pour aller humaniser, pour aller chercher l'empathie, pour suivre quelqu'un et pouvoir vivre ce que la personne pourrait avoir vécu. Donc, c'est ce désir profond de rassembler des gens du milieu de la recherche, des arts visuels, des arts littéraires, du milieu de l'intervention, du journalisme, même du monde politique, toutes des personnes engagées dans la construction d'une société qui serait véritablement sensible au trauma.
Alors, moi, ce que je vais quand même parler un petit peu du processus puisque je l'ai fait, puis ça va nous aider à aller à la prochaine question. Alors, moi, ce que vous avez fait, vous m'avez envoyé deux entrevues. On avait enlevé les noms pour ne pas savoir qui étaient les personnes. Et à partir de ces deux entrevues-là, ou deux témoignages, j'ai créé une histoire à partir de ça. Et l'histoire aussi a fait l'objet d'un dessin. C'est un peu le processus pour tout le monde. Alors, et ce que j'ai découvert là-dedans, c'est que les stéréotypes de masculinité, hein, selon lesquels un vrai homme, ça ne peut pas être une victime, ça ne pleure pas, ça contribue beaucoup à isoler les survivants. Alors, comment les textes et les illustrations de cet ouvrage s'attaquent-ils directement à cette stigmatisation?
Je crois que c'est un des pouvoirs encore là des artistes. Je trouve que depuis que le monde est monde, là, les artistes ont toujours eu cette capacité d'aller remettre en question les normes et les tabous de la société, les récits dominants. Donc, ton exemple à toi, Denis Martin, c'est intéressant parce que c'est ça que tu as capté clairement dans les récits spontanés des hommes qui nous ont partagé leur histoire, de montrer comment, bon, premièrement, l'adhérence aux normes traditionnelles de la masculinité, ça fait mal à tout le monde, mais premièrement à ceux qui les assument et qui les endossent aussi sont des victimes elles-mêmes de ces normes-là. Et plus qu'ils ont endossé, la recherche nous montre que plus qu'ils endossent ces normes-là, et plus qu'ils ont de la difficulté à être heureux, à être bien, et ceux qui sont victimes à se rétablir de ces victimisations-là. Donc, ça transparaît, cette idée-là, à travers les textes, et des artistes qui lisent ça, bien, le captent, et sont capables de rendre visible l'invisible, de mettre des mots sur ces mots-là, et de briser certains tabous pour questionner ces récits dominants, de montrer les expériences encore marginalisées, négligées, comme ces expériences de violence sexuelle en enfance.
Le récit donne la parole à plusieurs auteurs et artistes qui abordent des thèmes donc, comme la paternité, le rejet des stéréotypes, l'appel à la guérison. Il y a beaucoup de lumière dans le livre en passant. Je dis le livre, c'est pas encore publié, ça s'en vient. Ce que je trouve intéressant, c'est de savoir comment les personnes qui ont contribué les témoignages à partir desquels nous avons écrit ces textes, comment ils ont réagi quand ils ont lu les textes?
Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils trouvaient que c'était une façon de rendre leurs paroles pas identiques, mais s'inspirer pour être capable, encore une fois, d'aller toucher plusieurs personnes. Fait que de contribuer à ce mouvement-là était quelque chose à laquelle ils étaient contents de participer.
J'aimerais qu'on parle maintenant du fait que ces textes-là sont disponibles en ligne, hein, tracer les mots MAUX, on peut trouver ça en faisant une recherche sur son navigateur. Ça existe aussi en version audio, mais là, ça va exister en format papier. Pourquoi?
Parce que le papier a quelque chose aussi de concret. Donc, de l'avoir dans les mains, de pouvoir avoir les œuvres assemblées, de pouvoir peut-être même interagir, souligner, écrire, etc. D'avoir cette œuvre-là dans ses mains a quelque chose de complémentaire. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là de faire, bon, ça fait rayonner aussi. C'est quelque chose de l'avoir sur son écran, mais de l'avoir comme un vrai livre, un objet dans ses mains. On est ailleurs, il y a quelque chose de plus vrai.
C'est comme une valeur patrimoniale qu'on dit souvent sur le livre papier.
Oui, c'est ça. Il y a une odeur, il y a une texture, on le touche, on peut feuilleter, on peut interagir avec d'une autre façon. Donc, il y a quelque chose qui peut venir à être complémentaire, plutôt que, c'est sûr qu'en ligne, c'est intéressant aussi, on peut l'écouter. Oui. Il y a même des auteurs comme toi qui ont fait eux-mêmes le son, l'audio. Donc, on a plein de modalités qui viennent chercher, puis même pour la même personne, pour moi, l'avoir lu de différentes façons, l'avoir écouté, puis là, l'avoir, quand je l'aurai dans mes mains, c'est pas la même expérience. On dirait qu'on le revisite de d'autres façons, le même texte. Donc, je trouve que c'est complémentaire.
Ça va être publié aux éditions TNT, qui est une maison d'édition, qu'on dit une entreprise d'économie sociale. Quand même intéressant aussi, parce que c'est pas une grosse entreprise qui est là pour faire beaucoup d'argent, mais elle est là pour aider les auteurs, autrices de la relève. Comment se passe cette contribution, ou cette collaboration plutôt?
Très bien. Bien, on voit que c'est une maison d'édition qui le fait pour des raisons humanitaires, pour des raisons communautaires. C'est pas nécessairement pour faire des gros profits, là. T'sais, c'est pas avec ça qu'ils font, pour d'autres raisons ancrées dans leur humanité. Donc, on partage cette mission commune d'aller collaborer pour quelque chose de plus grand que nous, pour essayer de partager de cette œuvre collective, pour faire rayonner, oui, le talent des artistes, mais c'est au service d'une cause qui nous dépasse, celle du monde du trauma, celle d'aller vers une approche sensible au trauma pour mettre de l'avant chaque personne victime dans sa lutte contre les violences sexuelles et pour se rétablir des répercussions.
Moi, je me rappelle, on a commencé ce projet-là en 2022, si je ne me trompe pas. Et est-ce que, là, je vais me permettre de le dire au-dessus, est-ce que tu t'attendais à une telle réaction de la population, des gens vis-à-vis de ce projet?
J'espérais avoir une réaction intéressante, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui peut vivre longtemps. J'ai l'impression que c'est un projet qui a plusieurs vies, qu'on pourrait même relancer des versions suivantes, ou peut-être relancer une façon de faire vivre ce projet-là, parce que c'est un projet porteur qui vient chercher les gens du public. Puis les gens, tu sais, il y en a beaucoup dans le public qui ont vécu toutes sortes d'expériences. Donc, ou qui ont accompagné, ou qui connaissent quelqu'un. Le trauma n'est jamais très, très loin, malheureusement, avec les taux de prévalence qu'on a dans nos sociétés. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça interpelle plus qu'on pensait. Et en même temps, comme tu le dis, c'est une façon qui est... On n'est pas dans un sous-sol noir, là. On s'en va pas dans une souffrance. On s'en va vers quand même de la lumière, de l'espoir, tout en étant... capable de ne pas non plus rendre ça. On sait que c'est des violences, on sait qu'il y a quelque chose d'épouvantable, de réellement burque là, dans ces expériences-là, mais sans se noyer dans la noirceur que ces expériences-là peuvent nous apporter, pour montrer aussi qu'on peut s'en sortir. Il y a de l'espoir.
Oui, ben en fait, je pense toujours à cette fabuleuse image, cette œuvre, en fait, qui a été produite par Florence Sabatier, qui illustre mon texte, et il y a cette porte avec de la lumière qui est ouverte, qui est là. Je trouve que ça nous aidait à voir qu'il y a du lumineux quelque part dans tout ça.
Exactement. Et il y en a toujours de la lumière. Fait que c'est cette idée-là de dire, on ne fait pas fi de l'expérience difficile qui a été vécue et des traces encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle, hein? Oui. Parce que ces expériences-là laissent des traces, et lorsqu'on n'en prend pas soin, ces traces-là peuvent se maintenir et même s'exacerber et nuire à la vie quotidienne des personnes victimes. Et on ne veut pas ça. On veut qu'ils entendent qu'il y a moyen d'en parler, que ce n'est pas un tabou, que ce n'est pas à eux de porter la honte. Il y a moyen aussi de prévenir que les jeunes aujourd'hui, ou que les personnes soient revictimisées ou soient victimisées. Et il y a moyen aussi de guérir, de se rétablir pour avoir une vie qui vaut véritablement la peine d'être vécue, aujourd'hui, peu importe les expériences du passé.
Un gros merci, Natacha Godbout, directrice du Collectif national sur la victimisation masculine et de l'unité de recherche sur le trauma et le couple à l'Université du Québec à Montréal. Et je rappelle donc que Tracer les mots, M-A-U-X, sera publié aux éditions TNT. Et ça va être bilingue aussi. Il y a une version anglaise qui va être de l'autre côté du livre. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bonne journée.
Bonne journée.